Nous allons voir dans cette vidéo des questions relatives à la capacité et à la représentation, c'est-à-dire à la capacité de conclure un contrat et à la représentation d'un contractant. L'ordonnance du 10 février 2016 fait entrer dans le code civil des dispositions qui sont des dispositions sur la capacité, on en avait déjà dans le code civil de 1804, et des dispositions générales sur la représentation. Dans le code civil de 1804, on trouvait des textes sur le mandat, on a des droits spéciaux sur la représentation, des sociétés par leurs dirigeants par exemple, mais on n'avait pas des règles générales comme on va les trouver maintenant sur la représentation. Donc nous allons voir ces deux questions avec Philippe Dupichot, question sur la capacité et la représentation. Commençons par la capacité et voyons le principe qui est posé par l'article 1145 nouveau du Code civil. Donc ce texte nous dit: toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. Bon, nous avons le texte en tête, ce n'est pas une révolution. Philippe, quelles pourraient être les exceptions à ce principe?
Alors effectivement, ce n'est pas une révolution. On retrouve ici peu ou prou l'ancien ou l'actuel article 1123 du Code civil. Rappelons simplement que la personnalité des personnes physiques étant du donné pour le législateur, depuis l'abolition de la mort civile, le principe est la capacité générale de jouissance de toute personne, qui est constatée ici dans cet article 1145, dont les exceptions sont évidemment les régimes de protection spéciale de ceux que l'on appelait autrefois des incapables majeurs ou mineurs, et dont on dit plus volontiers aujourd'hui que ce sont des personnes protégées. On songe évidemment au régime de représentation de la tutelle, au régime d'assistance de la curatelle, à la sauvegarde de justice qui est un régime plus transitoire, et évidemment à la minorité qui elle-même est une cause d'incapacité d'exercice.
D'accord, donc là on parle d'incapacité d'exercice, on a aussi, précisons-le, des incapacités de jouissance qui consistent à ne pas pouvoir du tout faire un acte, même en étant assisté ou représenté. On a quoi comme exemple
Effectivement, les incapacités de jouissance, elles, sont toujours spéciales, parce qu'une incapacité générale de jouissance serait la méconnaissance de la personnalité juridique. Et comme incapacité spéciale de jouissance, on peut penser à l'article 1125.1 actuel du Code civil, qui est déplacé dans le Code de la santé publique et qui indique une incapacité spéciale de jouissance, et donc une incapacité de contracter pour les personnes qui ont par exemple travaillé dans des maisons de retraite au contact avec des personnes supposées vulnérables avec lesquelles elles ne pourront pas contracter.
D'accord. Alors nous avons à côté de ces règles sur la capacité des personnes physiques un deuxième alinéa, un second alinéa dans l'article 1145 du Code civil, 1145 nouveau, qui nous dit que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet, tels que définis par leur statut, et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles. Bon. Nous avons vu le texte. On comprend que, en réalité, il y a un renvoi aux différents droits spéciaux applicables aux différentes personnes morales, sociétés, associations, syndicats, groupements d'intérêts économiques, etc., etc. Mieux vaut qu'on règle ces questions par des droits spéciaux, parce que le risque déjà avec ce texte qui vient nous parler d'actes utiles, c'est qu'on vienne ajouter aux règles spéciales qui sont souvent déjà complexes, déterminant la capacité des personnes morales, eh bien, des règles supplémentaires. Un critère d'utilité, par exemple, ne serait pas valable à un acte fait par une personne morale s'il n'est pas utile. Mieux vaut
Oui.
éviter de rentrer dans ce genre de discussion. Voilà.
Je crois que tu as tout à fait raison. Je pense que le seul but de cet article 1145, alinéa 2, est de rappeler le principe de spécialité des personnes morales qui doit trancher avec le principe de pleine capacité des personnes physiques. Il ne faut surtout pas en inférer des conséquences au regard du droit des sociétés.
Alors ensuite, voyons la question de la représentation, puisque apparaît dans le Code civil, article 1153 et suivants, apparaissent des règles générales sur la représentation, très générales, puisqu'on vise, pour commencer, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel. On peut donner des exemples, hein, de ces différents représentants. Représentant légal, par exemple.
Représentant légal, c'est par exemple l'époux qui est représentant légal de l'autre, qui est dans l'incapacité de manifester sa volonté, ou l'indivisaire également, qui se fait habiliter à représenter son co-indivisaire.
Voilà, représentant judiciaire, on connaît les mécanismes. Alors, la loi peut donner au juge le pouvoir de désigner quelqu'un comme représentant judiciaire et les juges, se reconnaissent eux-mêmes par l'institution de l'administration judiciaire ou du mandat ad hoc compétence pour donner pouvoir à quelqu'un pour représenter quelqu'un d'autre. Et puis, représentation conventionnelle, bien sûr, c'est le mandat du Code civil qui n'est pas retouché par la réforme, puisque la réforme n'est pas allée modifier les différents contrats spéciaux. Bon. Alors donc, nous avons des règles générales sur la représentation. On a parfois des principes qui sont des principes qui étaient dans le droit du mandat, par exemple, et qu'on va trouver généralisés. Je pense à l'article 1161, quand on nous dit que un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat, surtout ni contracté pour son propre compte avec le représenté, finalement, on est en présence de quoi? Eh bien, c'est l'interdiction de la contrepartie, article 1596 du Code civil, qui se trouve généralisé.
Effectivement, il y a cette volonté de prévenir les conflits d'intérêts dans la représentation que l'on retrouve dans cette disposition. On peut aussi signaler des règles du droit spécial du mandat qui remontent au droit commun. Par exemple, la question de l'étendue des pouvoirs du représentant, qui est inspirée très nettement de l'article 1988 du Code civil et que l'on retrouve ici à l'article 1155. Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration, tandis que lorsque ce pouvoir est spécialement déterminé, eh bien, il peut emporter pouvoir de disposer au profit du représentant.
Et alors, si un représentant agit sans pouvoir, c'est-à-dire sans aucun pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, la sanction, c'est quoi?
Alors, de ce point de vue-là, on voit que le législateur a souhaité, il l'indique dans le rapport, clarifier des solutions incertaines. Et je crois qu'en fait, de clarification, il y a tout de même certaines évolutions. Dans la jurisprudence actuelle, lorsque le représentant agit sans pouvoir, la nullité est en principe relative, elle était absolue autrefois en jurisprudence, elle est relative aujourd'hui, et la nouvelle sanction d'un représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est une inopposabilité au représenté. Inopposabilité au représenté et non plus nullité relative.
D'accord, donc là on a une évolution. Tu vois d'autres évolutions significatives sur la représentation?
Alors, on peut mentionner également la consolidation de la jurisprudence relative au mandat apparent. On devrait, me semble-t-il, parler maintenant du représentant apparent, puisqu'on est dans la théorie générale de la représentation. Rappelons que, en vertu d'une décision d'Assemblée plénière de 1962, le mandat apparent va opérer lorsque le tiers pouvait légitimement croire dans les pouvoirs du représentant et que ce caractère légitime suppose, c'est le critère à double détente dégagé par Gérard Cornu, que les circonstances justifiaient que le tiers n'ait pas vérifié les pouvoirs du représentant. Alors, on trouve cette jurisprudence, mais ramassée dans un alinéa de l'article 1156, l'acte accompli par un représentant sans pouvoir au-delà de ses pouvoirs est inopposable, c'est ce que l'on disait au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant. Donc, ces deux critères n'en deviennent plus qu'un, et peut-être que c'est un nouvel espace pour la théorie de la représentation apparente. Peut-être sera-t-elle amenée demain à être davantage utilisée qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Ce que tu en penses, Bruno?
Oui, le texte dit d'ailleurs, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté, ce qui laisse ouvert la possibilité à d'autres hypothèses. Donc, on le voit, la réforme sur ce point, sur la capacité, on enrichit les règles sur la capacité de référence aux personnes morales, comme on l'a vu, mais finalement, le droit positif évolue relativement peu. Représentation, on fait apparaître des règles qui sont pour beaucoup prise alors de la jurisprudence, comme sur la théorie de l'apparence, ou du droit spécial du mandat, et on a des règles générales sur la représentation qui apparaissent dans la partie du droit général, du droit commun des contrats.
Notamment la distinction de la représentation parfaite et imparfaite, qui effectivement se trouve reprise aux articles 1154 et suivants.
Philippe, je te remercie.